Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Labo Matique. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Dominique Bernard, responsable des collections scientifiques de l'Université de Rennes 1, et nous en remettons à lui pour nous faire découvrir les merveilles et l'histoire de ce lieu unique. Nous sommes aujourd'hui avec Dominique Bernard, responsable de la collection des objets scientifiques de l'Université de Rennes 1. Bonjour, est-ce que vous voudrez bien présenter la collection de l'Université?
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Dominique Bernard. Je suis maître de conférence en physique, retraité depuis quelques temps. Et avec mon collègue Jean-Paul Taché, un autre physicien, on a reconstruit ce qu'on appelle les collections d'instruments scientifiques de l'Université de Rennes, de la Faculté des sciences. Cette Faculté des sciences date de 1841. Donc, elle a maintenant plus de 170 ans. Et on a retrouvé un certain nombre d'instruments de tout le 19e siècle, environ un millier d'instruments de cette époque, et qu'on a pu dater, documenter et présenter. Quand on peut, on les présente en fonctionnement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on insiste sur cet aspect-là. Et puis, ces instruments nous permettent d'aborder divers domaines. L'histoire de notre faculté, d'une part. Deuxièmement, l'histoire des instruments, l'histoire de la mesure, les phénomènes. Alors, comme ce sont des instruments du 19e siècle, c'est basé sur les sens. On regarde un phénomène, on écoute, par exemple, il y a beaucoup d'acoustique. Les physiciens, les chimistes, les pharmaciens sentaient, touchaient. Donc ce sont des instruments qui sont basés sur le sensible. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant au niveau pédagogique, puisque tout le monde a des sens, donc tout le monde peut appréhender ce qui se passe. Hein. On donne souvent des exemples en acoustique, avec des diapasons par exemple, ou des exemples en optique. Tout à l'heure, je faisais une expérience avec des enfants à partir des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, vous voyez, des phénomènes directement accessibles, et donc c'est très pédagogique.
Est-ce que vous voudriez nous parler plus en avant de l'histoire de ces collections, donc depuis le début de la faculté de Rennes au 19e siècle jusqu'à aujourd'hui?
Alors, cette histoire, en fait, rejoint celle de la ville de Rennes, puisque la Faculté des sciences a été créée en 1841 à la demande de la ville de Rennes. Et la première fac était dans les locaux de la mairie. Il y avait un chimiste qui s'appelait M. Malaguti qui faisait des expériences de chimie sur place. Donc, on avait déjà sur place des appareils. La ville a acheté des instruments. On a retrouvé des factures. Et on a un certain nombre de ces instruments. En acoustique, j'ai dit, mais on a une machine à vapeur de Watt, etc. Donc, première période, 1860-1870, à la mairie de Rennes. Ensuite, la fac a déménagé. Elle a occupé ce qu'on appelle le palais universitaire. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant le musée des Beaux-Arts, où là, il y avait l'ensemble des facultés, plus le muséum, puisqu'on a des collections d'histoire naturelle aussi, qu'on a retrouvées, qui sont sur le campus. Donc, deuxième période, jusqu'à la fin pratiquement du 19e siècle, au palais universitaire. Troisième période, ce qu'on appelle la fac de sciences Pasteur, donc à la fin du 19e, on a construit un bâtiment, Place Pasteur, donc ce bâtiment qui existe encore, où il y a une partie de l'école dentaire, et qui a été construit spécialement pour les scientifiques cette fois-ci. Un gros bâtiment qui est resté faculté des sciences jusqu'à peu près 1970. Et puis là, quatrième déménagement, on arrive sur le campus de Beaulieu, à peu près en 1966-1968. Et là, on a ce grand campus. Et cette fois-ci, si les collections de zoologie et de géologie sont bien gardées, eh bien, les collections d'instruments disparaissent. Alors, à quoi servaient ces collections d'instruments? En fait, dans le système ancien, depuis 1841 pratiquement jusqu'à 1970, on avait un professeur de physique, par exemple, ou de chimie, qui faisait des cours. Le nombre d'étudiants était assez restreint. il n'y avait pratiquement pas de salle de travaux pratiques. On avait le prof qui faisait son cours, on avait un assistant qui préparait des expériences avec ce qu'on appelait un garçon de laboratoire. Et les expériences avaient lieu en amphithéâtre, devant tout le monde. Donc c'était un petit peu casse-gueule, parce que les expériences en sciences, elles ne fonctionnent pas tout le temps. Donc c'est, hein, et donc, on a retrouvé ces instruments. Moi, j'ai fait des expériences en amphithéâtre jusqu'en 1970, à peu près. Et on a retrouvé des instruments un peu partout, puisque à partir de 1970, ça servait plus. Ces appareils ne servaient plus. Donc, il y en avait dans les couloirs, dans les sous-sols, un petit peu partout. Et on a reconstruit, on a regroupé ça il y a à peu près moins d'une dizaine d'années, il y a 8 ans. Et on a aménagé une galerie avec ces instruments anciens, donc à peu près un millier.
Quels efforts vous ont été nécessaires afin justement de reconstituer toute cette galerie? Parce qu'on voit vraiment énormément d'instruments de toutes les époques.
Alors, de la résistance et de la patience. C'est-à-dire que de la résistance, parce que il faut d'abord retrouver ces objets, convaincre les gens que ces objets sont utiles. Alors, quand ce sont des objets dorés, comme quelques-uns qu'on a, c'est assez facile, parce que ça ressemble à des bijoux, mais vous avez des choses qui ne sont pas très beaux au niveau esthétique, mais qui sont importants à condition de les comprendre et de les documenter. Donc, le gros travail, ça a été de récupérer des instruments, bien sûr, mais de les documenter. Et là, on a la chance d'avoir, d'une part, Internet, qui est un instrument extraordinaire de recherche. Et deuxièmement, on s'est introduit dans un réseau international de gens, de scientifiques, de conservateurs qui travaillent sur les instruments au niveau international. On travaille avec Florence, on travaille avec les Américains, on travaille avec la Suisse. Et il y a énormément d'échanges. Quand des gens trouvent des appareils, grâce à Internet, grâce aux emails, etc., on s'envoie des photos. Tiens, j'ai trouvé telle chose, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que toi tu sais? Donc on arrive à construire une documentation, c'est ça qui est important. Alors parfois on a les factures, donc là c'est extraordinaire, quand on a quelques objets dans lesquels on a les factures. Et puis, certains appareils, on ne sait pas à quoi ça sert. On en a quelques-uns, on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Donc on attend que ça vienne. Hein. L'important vraiment, c'est d'essayer d'expliquer et d'y arriver que c'est la même science, la science du 19e, la science du 18e, la science du 21e, c'est la même science. C'est une construction intellectuelle, on fait l'essai, on fait l'erreur, et à partir de ça, on émet des concepts, des théorèmes, etc. Archimède, la poussée d'Archimède, elle ne date pas d'hier. Toute la construction et l'importance de ces objets. Ce qui est exceptionnel dans les objets du 18e ou du 19e, c'est la culture du scientifique qui est derrière. C'est-à-dire que c'était souvent des omniscients, des gens qui connaissaient énormément de choses dans des domaines différents. Hein. Et avec ça, eh bien, ils arrivaient à découvrir de nouveaux phénomènes ou expliquer des anciens phénomènes.
Vous parlez principalement de scientifiques du 19e ou du 18e siècle, mais est-ce que vous avez également quelques objets qui seraient antérieurs à cette période ou postérieurs, justement?
On a, en objet antérieur, on a retrouvé un télescope de James Short, donc il y a 250 ans, là, il date de 1740, donc ça c'est un appareil exceptionnel, c'est sans doute un des premiers introduits en France, on a très peu de choses à ce sujet. Probablement, il y avait un collège de jésuites avant la Révolution à Rennes. C'est probablement un héritage de cette époque. Donc ça, c'est un appareil exceptionnel. Et puis, on n'est pas sur Radio Nostalgie, comme dirait l'autre. On est branché sur le patrimoine contemporain. On a une mission avec le Musée des Arts et Métiers et puis d'autres régions. On travaille sur le patrimoine contemporain. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le patrimoine scientifique contemporain? En gros, la période de 1950 à 2011, où cette fois-ci, il s'agit de... Alors, il y a eu énormément de matériel jeté, c'est-à-dire que c'est normal, les laboratoires, au fur et à mesure que les techniques se développent, que les instruments deviennent de plus en plus rapides et précis, on a besoin de place, donc on vide les labos et souvent on remplit les poubelles. Donc notre travail, ça a été de dire aux gens d'abord, attention, on n'a plus rien à montrer, notamment en France, on n'a plus rien à montrer sur la science de 1950 à 2010. Donc il y a eu un vrai travail de repersuasion et de revisite des laboratoires. Et on collecte des instruments. Alors la question, la différence par rapport au 19e ou 18e, on n'a aucun recul. Donc on recueille des instruments, Mais est-ce que c'est les bons? Est-ce que c'est ceux qui, en 2100, seront représentatifs de la période? Ben là, c'est un peu un pari. Alors, quand c'est des gens qui sont connus, des prix Nobel, le stylo, le bureau du prix Nobel, bon, ce n'est pas forcément l'instrument scientifique le plus intéressant. Mais autrement, ben, on y va un petit peu au hasard, en sachant qu'on travaille là aussi au niveau d'un réseau national et international. Bon, certaines régions, en fonction de leur culture et de leur dynamique, vont travailler sur telle discipline. On va travailler sur l'électronique, la chimie, par exemple, beaucoup. D'autres vont travailler sur l'informatique. Hein, l'idée, c'est de collecter un certain nombre de choses, de les documenter. Ensuite, faire aussi de l'interview, quand on peut, on interviewe les chercheurs ou les techniciens qui ont travaillé sur les instruments. Et puis, on a des bases de données. On a actuellement une base de données qui s'appelle PATSTEC, là, au niveau national, le Musée des Arts et Métiers. On a à peu près 5000 instruments contemporains, photos, explications, etc.
C'était donc Dominique Bernard, de l'Université de Rennes 1. Passons maintenant à un petit morceau de musique avec David Shaw and the Beats et le titre Infected. I've got too much energy to switch off my mind. But not enough to get myself organized. My heart is heavy and my head, yeah, my head is confused. Little soul has started turning blue. Has started turning blue. I can't give you up till I've got more than enough. So infect me with your love. Nurse me into sickness. Nurse me back to health. Endow me with the gifts of the man.
To your womb, your cradle to my tomb, my scrotum to your womb, your cradle to my tomb. I can't give you up.
C'était donc David Shaw and the Beat avec Infected. Revenons maintenant avec Dominique Bernard pour la suite de la découverte des collections scientifiques de l'Université de Rennes 1. Est-ce que vous pourriez nous parler de certaines de vos pièces favorites dans cette collection et nous les décrire, nous décrire à quoi elles servent, comment elles ont fonctionné, qui les a inventées ?
Alors, quelques-unes vraiment assez exceptionnelles. On a une copie des instruments de Pierre et Marie Curie et de Jacques Curie pour la mesure de les premières mesures de radioactivité. Alors, c'est un appareil qui a été conçu par les Curie donc à la fin du 19e, d'abord à l'École supérieure de chimie de Paris, puis ensuite à ce qu'on appelle le musée Curie. Et on a quasiment les premières copies. Hein, on a... alors il y a un quartz, c'est un cristal de quartz sur lequel on tire et qui provoque des charges électriques. Donc là on a un des premiers appareils, on a le numéro 2. Alors je sais pas, enfin je connais le prof qui l'a fait venir, c'est monsieur Gripon sans doute, mais on n'a aucune archive dessus, hein. Donc des appareils de Curie, électromètre, quartz, électroscope à feuille d'or, donc c'est un électroscope, donc c'est à base d'une feuille métallique. On met un produit radioactif, rayonnement ionisant, la feuille de métal se déplace. Et pour faire des mesures de radioactivité, Pierre Curie utilisait une lunette graduée. Donc, vous voyez, si je vous avais dit, j'ai un appareil pour mesurer avec une lunette un rayonnement invisible, vous m'auriez dit, qu'est-ce qu'il me raconte, ce monsieur ? Il raconte n'importe quoi. Vous voyez, là, justement, on rejoint ce que je vous ai dit sur l'omniscience des personnes de l'époque. Les frères Curie, avec Marie Curie, quand ils ont découvert la radioactivité, ils avaient d'expériences différentes avant. Ils avaient construit des appareils, ils connaissaient l'électroscope, ils savaient faire des mesures, hein, et ils ont construit des premiers appareils comme ça. Donc ça, c'est un appareil assez typique, exceptionnel que l'on a. Alors, on en a d'autres. On en a un qui s'appelle un gyroscope de Léon Foucault. Léon Foucault est très connu pour sa manipulation du pendule de Foucault pour observer la rotation de la Terre, on le voit notamment au Panthéon. Eh bien, il a construit avec des instrumentistes de l'époque un appareil qui s'appelle un gyroscope, donc une toupie, appareil qui permet d'observer la rotation de la Terre, mais chez soi. Hein. Le pendule de Foucault, il fait 15 mètres de haut et puis je crois que c'est 30 kilos. Là, c'est un petit appareil dans un bureau qui permet d'observer la rotation de la Terre. Eh bien, actuellement, il y en a deux en France. L'autre est au Musée des Arts et Métiers et il y en a quatre au monde. Donc, vous voyez, là, ce sont des appareils tout à fait exceptionnels. Et puis, un troisième dans un autre genre. Alors, électroaimant de Pierre Weiss. Alors, électroaimant, donc, vous imaginez un espèce d'aimant avec des bobinages. On met un courant électrique dedans, ça vous fait un champ magnétique. Et ça a été construit par le physicien Pierre Weiss, qui est venu 5 ans à Rennes. Il a démarré il était normalien, l'école normale supérieure. Il a fait sa thèse à Paris et était professeur à Rennes à la fac entre 1885 à peu près 1888-89. Et il a fondé plus tard un institut du magnétisme à Strasbourg. Donc, c'est vraiment un grand physicien de l'époque. Et son premier électroaimant a été construit à Rennes. Et là, je suis en train de faire une étude historique sur les électroaimants de Pierre Weiss. Eh bien, il en a construit un peu partout dans le monde. Il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne, en Suisse, il y en a à Harvard. Et il y a encore des start-up chinoises qui fabriquent des électroaimants de Weiss. Donc là, c'est typiquement un appareil qui esthétiquement est très moche. Hein. On l'a retrouvé, mais comme il est lourd, il n'est pas parti à la poubelle. Mais c'est vraiment un instrument, ce qu'on appelle un prototype, et ça, c'est assez exceptionnel.
Donc c'est vraiment un musée des merveilles ici, c'est une vraie cave d'Ali Baba.
C'est vrai que c'est une vraie cave d'Ali Baba. Alors on a des problèmes de place, on a des problèmes d'humidité, on a des problèmes de valorisation aussi, puisque c'est quand même dans un endroit difficilement accessible au public. Et nous, on aimerait bien que ces projets soient plus valorisés au niveau de la ville de Rennes, peut-être dans un autre lieu ou dans d'autres projets à développer.
Comme éventuellement, par exemple, un musée des collections scientifiques. On va dire qu'il y a un certain patrimoine scientifique et culturel à l'Université de Rennes 1. Est-ce que vous penseriez éventuellement d'un musée des sciences rennais?
Oui, alors, bon, pas forcément un musée des sciences strictes, hein, parce qu'on n'est pas, dans la nostalgie et poussiéreux, mais ça pourrait faire partie d'un ensemble sur l'ensemble du patrimoine, par exemple, ou de l'histoire de Rennes. Ça pourrait être lié à d'autres secteurs, musée des Beaux-Arts, musée de Bretagne, espace des sciences. Hein, on ne veut pas d'un truc complètement fermé et centré, mais ces collections méritent d'être davantage valorisé. On le voit très bien quand on fait des visites. Bon, là, aujourd'hui, on a fait des visites de classe de CP et CM1, donc des petits, mais on peut faire on fait avec des adultes, et à chaque fois, bon, ça percute, quoi. L'ensemble des collections de la faculté et de l'université sont maintenant reconnues au niveau international. Il faudrait les valoriser à un niveau plus élevé.
D'ailleurs, vous parlez des visites de ces collections. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment faire pour venir visiter la collection des outils scientifiques de Rennes 1?
Alors, c'est assez difficile puisque ces collections sont dans des salles où on peut accueillir que peu de monde. On a peu de personnel actuellement pour faire ces visites. Hein. Donc, il y a des visites. Maintenant, en fait, on fait plusieurs grandes opérations. La nuit des musées, journée du patrimoine, journée européenne du patrimoine. On a des assistantes qui s'occupent très bien de ça. On développe quand on peut, mais c'est souvent sur des bases bénévolat, des visites de classe, etc. Mais là encore, il y a un potentiel énorme, mais il faut sans doute dégager des postes un peu plus pour développer ces visites. Hein. On sait qu'il y a un impact extraordinaire des visiteurs, mais là aussi, ça mérite vraiment un effort de valorisation.
Récemment, on a vu des archéologues reconstituer des oryx gaulois. Est-ce que dans votre collection, par exemple, vous faites aussi de la reconstitution d'anciens outils scientifiques utilisés auparavant?
Oui, alors, c'est limite archéologie et limite bricolage. Alors, d'une part, j'en ai parlé tout à l'heure, on travaille beaucoup en réseau au niveau international. Il y a des bouquins. Il y a des spécialistes d'instrumentation. Je pense à des collègues au musée Galileo à Florence. Et ben, parfois, on trouve des appareils en morceaux. Donc, on collecte un peu tout. Et puis, ben, on regarde dans les bouquins, on regarde sur Internet. On demande aux voisins, aux collègues. et on essaie de reconstruire des appareils. Alors, j'ai reconstruit comme ça un kaléidoscope. Hein. Il était en 5-6 morceaux dans une grande salle de 30 mètres de long. Bon, j'ai reconstruit cet appareil. J'ai reconstruit le télescope dont je parlais tout à l'heure, qui a 250 ans. Quand je l'ai trouvé, il était en morceaux. Il m'en manque encore un petit bout. D'ailleurs, il manque un oculaire. Hein. Mais là, c'est Internet. Hein. C'est la documentation Internet qui nous permet de reconstruire ça, plus le travail avec des collègues. Et puis, le fait d'acquérir de l'expérience, c'est à force de voir des bouquins, des images, etc., on finit par savoir que tel type d'appareil. Puis quand il y a le nom des constructeurs, ça aide beaucoup. Hein. Donc là, je suis en train de reconstruire un appareil de projection là, optique, un appareil qui date de 1885 de Jules Dubosc, un constructeur français. Bon, j'ai la photo, j'ai la doc, et il m'en manque des morceaux. Alors, parfois, quand ce sont des appareils exceptionnels avec lesquels il nous manque des morceaux, ben on fait appel à des artisans qui font les pièces qui manquent. Mais c'est vraiment quand les appareils sont exceptionnels parce que ça coûte très très cher.
Est-ce qu'éventuellement vous recevez des stagiaires ou des étudiants de master ou juste des personnes extérieures à la collection pour étudier certaines pièces de la collection ?
Oui, ça nous intéresse. On a plusieurs étudiants de master, par exemple en physique chimie ou dans tout ce qui est biologie. Mais ça nous intéresse d'avoir éventuellement des étudiants intéressés par des stages patrimoine. Ça peut être du domaine de physique, chimie, zoologie, mais ça peut être aussi des sciences humaines, l'aspect sciences humaines, l'aspect histoire. Il y a énormément de choses passionnantes qu'on n'a pas le temps de faire et qui peuvent conduire à des publications. On a fait des publications à partir de stages de master, des publications internationales. S'il y a des étudiants qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter.
Merci Dominique Bernard de nous avoir reçus ici. Est-ce que vous auriez un mot pour la fin ?
Écoutez, le mot pour la fin, c'est dire que le passé n'est pas loin et que si un jour on veut savoir ce qui se passe dans l'avenir, on ne saura pas si on ne sait pas quel est notre passé.
Des mots très sages. Merci Monsieur Bernard. Merci. Au revoir. Voilà, c'était donc Dominique Bernard. Vous retrouverez les liens vers les sites de réservation pour les visites des collections sur le site de l'émission radiocampusrennes.fr/labm. Cette émission est maintenant terminée, mais restez à l'écoute sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Lambomatique.
Love the night.